Chapitre 4. Margrève au château de Baldwin. Henry Dalton prospérait dans sa profession qu'il chérissait. D'anciens juges aux cheveux gris parlaient, en prenant leur verre de vin de Porto, après leur dîner, de la vivacité d'esprit, de l'éloquence déployée par le jeune avocat dans les causes les plus difficiles et les plus importantes. Une, deux, trois années se passèrent et le nom de Dalton commençait à être l'un des plus marquants dans le Northern Circuit. Le point du jour le trouvait souvent travaillant dans son cabinet pendant que sa charmante épouse dansait dans quelque brillante réunion ou écoutait les fades platitudes de l'un de ses nombreux et silencieux admirateurs. Avec Elinor, être malheureux, c'était être indifférent. Elle avait cette nature facile à émotionner qui ne peut méditer sur ses peines dans le cercle tranquille d'un intérieur solitaire. Elle se regardait outragée par l'économie de son mari, encore plus outragée par sa froide retenue, et elle cherchait dans les cercles les plus fashionable et les plus animés de Londres le bonheur qui n'avait jamais existé à son foyer froid et abandonné. « Sa profession est tout pour lui, disait-elle, mais au moins le monde me reste, et si je ne puis être aimée, je lui prouverai du moins que je puis être admirée. » Dans beaucoup de maisons où elle était constamment reçue, Margrève était aussi un visiteur assidu. Le riche et fashionable avoué célibataire était certain d'être le bienvenu partout où quelques mamans avaient des filles à marier, quelques papas de l'argent à placer ou des hypothèques à effectuer. Mais malgré les recommandations de son mari, les manières d'Elinor envers son ancien tuteur ne changèrent pas le moins du monde. « Vous pouvez refuser de le recevoir ici, vous pouvez me défendre de lui écrire, je reconnais le droit que vous exercez si rudement, » disait-elle à son mari. « Mais vous ne pouvez ébranler ma foi dans l'ami de feu mon père. Vous ne pouvez contrôler le sentiment que j'éprouve pour le tuteur de ma jeunesse. » Mais peu à peu, elle remarqua qu'on voyait Margrève moins souvent dans les maisons qu'elle fréquentait, que c'était chose rare maintenant pour elle de rencontrer sa belle tête brune, dominant avec fierté la foule à laquelle l'avoué se mêlait. Et même lorsqu'elle le rencontrait par hasard, quoique sa voix conservant encore son ancienne douceur, on voyait qu'il essayait de l'éviter, ce qui, par degrés, diminua leur confiance mutuelle. Ceci se passait pendant les deux premières années de son mariage. La troisième, elle apprit accidentellement que Margrève voyageait en Suisse et avait laissé la direction entière de ses nombreuses affaires à son jeune associé. L'automne suivant, Elinor se trouvait avec son mari dans la maison de campagne de son amie, Sir Lionel Baldwin. Depuis le jour où la scène avec Margrève avait eu lieu dans son petit salon, Elinor et son mari n'avaient eu aucune explication à ce sujet. Ce jour-là, le jeune homme était tombé à genoux aux pieds de sa femme éplorée, et l'avait instamment supplié de croire en sa parole et en son honneur, et d'être persuadé que, dans tout ce qu'il faisait, il y avait un motif aussi fort que désintéressé qui dirigeait ses actions. Il la pria d'être persuadé que son mariage, de son côté, avait été entièrement un mariage d'inclination, qu'il n'avait été poussé par aucune pensée pécuniaire et que, si aujourd'hui il tenait aussi serré l'argent auquel, en apparence, elle avait autant de droits que lui, c'est qu'il n'était point en son pouvoir de faire autrement. Mais ce fut en vain qu'il implora. Prévenue par les apparences depuis le commencement de leur connaissance, elle n'avait jamais eu grande confiance en lui. Blessée dans son affection pour un autre, affection dont la force était telle qu'elle n'osait se l'avouer à elle-même, ses sentiments pour Dalton se changèrent bientôt presque en aversion. Son simple bon sens pratique, ses manières ouvertes et franches, la fermeté, l'énergie, l'infatigable persévérance qu'il apportait dans la poursuite d'une action pour laquelle elle n'avait aucune sympathie, tout cela était incompatible avec son tempérament enthousiaste et romanesque et empêchait de rendre justice au véritable mérite de son époux. Le monde connut bientôt les clauses excentriques du testament de M. Harden et les détails du mariage de Dalton. On sut que c'était un mariage de convenance et non d'affection. Lui était un heureux gaillard et elle était fort à plaindre. Telle était l'opinion générale que l'indifférence d'Elinor envers son mari ne faisait que confirmer. Il y avait une semaine que M. et Mme Dalton étaient au château de Baldwin lorsque le jeune avocat fut contraint, par les exigences de sa profession, d'abandonner sa femme aux soins de ses vieux amis, Sir Lionel et Lady Baldwin. « Vous serez heureuse ici, chère Elinor, dit-il. La maison est pleine de gens aimables et vous savez combien votre hôte et sa femme vous chérissent. Vous ne vous apercevrez probablement pas de mon absence, » ajouta-t-il avec un soupir en regardant son visage indifférent. « M'apercevoir de votre absence ? De grâce, monsieur Dalton, ne vous alarmez point. Je n'ai point l'habitude de vous prendre ni votre temps ni votre attention. Je sais, lorsque vos devoirs vous réclament, combien je suis peu de chose pour vous. Je ne travaillerai point tant si je n'y étais forcé, Elinor, » lui répondit-il avec un peu de reproche dans la voix. « Mon cher monsieur Dalton, répliqua-t-elle froidement, je n'ai aucun goût pour les mystères. Vous êtes parfaitement libre de vous livrer à vos affaires. » Ils se quittèrent ainsi. Elle lui dit adieu avec autant d'indifférence que s'il eût été son bijoutier ou son passementier. Pendant que le léger phaéton le conduisait à la station du chemin de fer, il regarda vers les fenêtres, garnies de rideaux de perse, de la chambre de sa femme, et se dit à lui-même « Je me demande combien de temps durera encore cette infortune imméritée, cette cruelle erreur. » Le lendemain matin, après le départ de Dalton, comme Sir Lionel se mettait à table pour déjeuner et ouvrait le sac aux lettres, il s'écria, d'un ton mêlé de surprise et de plaisir, « Ainsi, le voyageur est de retour. Dans le fond de ce sac, j'aperçois la suscription de Margrave. Il est donc de retour en Angleterre. » Il fit passer leurs lettres à ses invités, puis il ouvrit les siennes, réservant celle de l'avoué pour la dernière. « C'est charmant. Horace sera ici ce soir. » Les joues d'Elinor pâlirent à cette annonce, car la haine qui existait entre son tuteur et son mari se présenta à son esprit. Elle allait enfin le rencontrer seul ici. À présent ou jamais, elle pourrait apprendre le secret, ce secret qui, sans aucun doute, cachait quelque bassesse de Dalton, le fils de l'apothicaire. « Margrave sera une bonne fortune pour nos invités, n'est-ce pas, messieurs ?» dit Sir Lionel. « Une bonne fortune ? Réellement, je n'en suis pas certain maintenant, » dit d'un ton traînant un jeune employé du gouvernement. « Savez-vous bien, Sir Lionel ?» Tous les jeunes employés du gouvernement appelaient le vieux baronnet Sir Lionel. Toute autre prononciation de son nom ou de ses titres demandant un travail au-dessus de leurs forces. Savez-vous ce qu'on dit, et c'est mon opinion, Lionel, que Margrave est usé, tout à fait usé? Je l'ai rencontré à... comment appelez-vous cela? Vous savez, dit-il vaguement, quelque part en Suisse. Bref, c'est en juillet dernier, et je n'ai jamais vu un homme aussi changé. « Changé ? » s'écria le baronnet. Le visage d'Elinor devint encore plus pâle. « Oui, sur mon honneur, Lionel, excessivement changé. Vous ne pensez pas qu'il ait commis un meurtre ou quelque chose de semblable, n'est-ce pas ? » dit le jeune homme en réfléchissant et en tirant vers lui le sucrier où il prit 4 ou 5 morceaux de sucre qu'il mit dans son café. « Eh bien, sur mon honneur, il avait l'air de l'avoir fait. » « Mon cher Fred, ne dites point de sottises. Il avait l'air de quoi ?»« Vous savez, d'avoir une conscience coupable, Lara. Manfred, vous comprenez. Sur ma parole, » ajouta le jeune employé, regardant la société avec son rire indolent, « il avait une apparence de juif errant, d'ultra-byronien tellement prononcée, lorsque je le rencontrai parmi des montagnes fort désagréables, ressemblant à des chromolies photographies, comment dirais-je, que je lui demandais s'il avait un rendez-vous avec le sorcier des Alpes ou autre personnage de cette espèce. » Un ou deux voisins de campagne essayèrent de rire, mais ils ne purent y parvenir, et les invités de la ville se contentèrent de regarder le jeune homme qui, lui, regardait tout autour de la table. Elinor ne le quittait point des yeux et avait l'air d'attendre avec inquiétude qu'il parlât de nouveau. « Peut-être que Margrave a été malade, » dit le vieux baronnet. « Il m'a dit en partant pour la Suisse qu'il quittait l'Angleterre parce qu'il avait besoin de changer d'air et de lieu. » Malade, répliqua l'employé du gouvernement. Ah, certes, je n'ai jamais pensé à cela. Au fait, il pouvait bien être malade. Il est quelquefois difficile de tirer une ligne de démarcation entre une conscience coupable et une affection du foie. Peut-être, après tout, que c'était son foie. Mais vous ne pensez pas, dit-il, revenant à son idée première, vous ne pensez pas qu'il ait commis un meurtre et qu'il ait enterré le cadavre d'un verroulant building, n'est-ce pas? Cela expliquerait son voyage en Suisse, savez-vous, car il lui aurait été impossible de rester avec le cadavre. Dites. Vous feriez mieux de lui adresser cette question vous-même, Fred, dit Sir Lionel en riant. Si tout le monde avait une conscience aussi tranquille que Margrave, le monde serait mieux fourni en gens d'honneur qu'il ne l'est. Horace est un noble cœur, je l'ai connu enfant. C'est un homme charmant. Et un bon tireur, dit un jeune officier, la bouche pleine de pain, de beurre et de pâte d'anchois. Et un joueur de billard de première force, ajouta son voisin, occupé à couper des tranches de jambon. Et un homme des plus habiles comme jurisconsulte, répliqua un vieux monsieur d'un air sentencieux. Très joli homme, murmura une jeune femme. Et puis, quel cavalier accompli, hasarda une autre. Alors, vous ne croyez point réellement maintenant qu'il ait commis un meurtre et qu'il ait enterré le cadavre dans ses bureaux? Demanda l'employé de Whitehall, adressant la question à la société tout entière. Dans l'ombre de cette soirée d'automne, Elinor était assise dans un petit boudoir attenant au grand salon, qui était une pièce longue, ayant 6 fenêtres, 2 cheminées et quantité de peintures assez insignifiantes, richement encadrées. Ce petit boudoir était la retraite favorite d'Elinor. Il était meublé avec luxe et communiqué par une porte vitrée entourée de lourds rideaux de damas à une grande serre qui s'ouvrait sur une terrasse s'étendant tout le long d'un côté de la maison. C'est là qu'elle était assise dans un demi-jour, pensive et réfléchie, le soir du départ de son mari. Les hommes étaient tous dans la salle de billard, s'escrimant avec les billes et les queues, essayant de terminer une partie engagée pendant la demi-heure qui leur était accordée avant la cloche qui devait les inviter à aller s'habiller. Les femmes étaient déjà à leur toilette et Elinor, qui s'était habillée plutôt que de coutume, était complètement seule. Il faisait trop nuit pour qu'elle pût lire ou travailler et elle était trop fatiguée et trop ennuyée pour demander de la lumière. C'est pourquoi elle restait assise, ses mains posées avec nonchalance sur ses genoux, réfléchissant à ce qu'on lui avait dit au déjeuner sur son ancien tuteur. Tout à coup, un pas qui s'avançait légèrement derrière elle, assourdi par l'épaisseur d'un tapis, la tira de sa rêverie et elle jeta vivement les yeux sur une glace placée au-dessus de la cheminée. À la sombre clarté du feu, elle aperçut, se reflétant dans la profondeur de la glace, le visage hagard et changé de son tuteur. Il portait un gros pardessus très large et tenait son chapeau à la main. Évidemment, il ne faisait qu'arriver. Il se recula en apercevant Elinor, mais comme elle se retournait pour lui parler, la lumière du feu laissa son visage dans l'ombre et il ne la reconnut point. « Je vous demande pardon, madame, dit-il, de vous déranger. Je cherche Sir Lionel partout. »« Monsieur Margrave, ne me reconnaissez-vous pas? Je suis Elinor. » Son chapeau s'échappa de sa main fine et il s'appuya pour se soutenir sur le dos d'une chaise haute. « Elinor, madame Dalton, vous ici, j'avais appris que vous étiez à Paris. » Sans cela, jamais je n'eus... C'est-à-dire que... C'était la première fois de sa vie qu'Elinor voyait Margrave si agité que le masque de marbre d'indifférence élégante et de sang-froid de bonne compagnie qu'il portait ordinairement tombait tout à fait et le montrait lui-même. « Monsieur Margrave, dit-elle avec anxiété, cela vous contrarie de me rencontrer ici ?» « Oh, que vous êtes changé! On avait raison de dire ce qu'on disait ce matin. Vous êtes en effet fort changé, il faut que vous ayez été bien malade. » Margrève reprit son sang-froid pendant ce temps. Il ramassa son chapeau et, se laissant aller avec nonchalance sur son fauteuil, il dit « Oui, j'ai été pris d'une espèce de fièvre d'épuisement. » Les médecins, par le fait, étaient assez embarrassés de donner un nom à ma maladie et ont voulu me persuader que j'avais des nerfs comme une jeune femme trompée par un lifeguard ou que ses parents empêchent d'épouser un curé de campagne avec 70 livres d'appointements par an et 3 sermons à faire chaque dimanche. Un avoué avoir des nerfs? Ma chère madame Dalton, pouvez-vous vous imaginer quelque chose de plus absurde? Sir James Clerk, néanmoins, exigea que je fisse mon porte-manteau et que je me dirigeasse vers le Mont-Blanc ou quelque chose de semblable, et moi-même, étant fatigué des tribunaux et de la chancellerie, de Verulam Building et de Gray's Inn, je fus trop content de suivre son conseil et de prendre mon billet de chemin de fer pour Genève. « Et la Suisse vous a remis ?»« Un peu, peut-être, mais pas entièrement. » Vous pouvez voir que je ne suis point encore très vaillant, puisque même l'agréable émotion produite par la rencontre fortuite de mon ancienne pupille est presque trop forte pour mes nerfs de petite maîtresse. Mais vous disiez, ma chère madame Dalton, que l'on avait parlé de moi ici. Oui, à déjeuner ce matin. Lorsqu'on a annoncé votre visite, un des messieurs a dit qu'il vous avait rencontré en Suisse et que vous paraissiez malade, malheureux. Malheureux ? Ah, ma chère madame Dalton, quelle infortune pour un homme d'avoir un teint pâle et les cheveux noirs. Le monde veut absolument qu'il soit dans un état de dépérissement et est un loup dévorant dans la poitrine. Je me suis fatiguée en cherchant trop la solution d'une clause testamentaire par laquelle un ennuyeux vieillard a laissé à son fils 40 000 livres sterling sur une moitié de feuille de papier à lettres. Et le monde, en me rencontrant en Suisse, voyageant pour me remettre, revient ici et me proclame malheureux. Voyons, n'est-ce pas trop méchant? Si j'avais été favorisé de cheveux rouges et d'un visage gras et dodu, je pourrais me briser le cœur une fois tous les trimestres sans que mes sympathiques amis s'inquiétassent des fractures qu'ils possèdent. Mon cher monsieur Margrave, dit Elinor, sa voix, malgré tous ses efforts, tremblant un peu, je suis à présent déjà une vieille femme mariée et, partant de là, je puis vous parler avec une entière franchise. Le puis-je ? Avec une entière franchise, certainement. Le tremblement habituel des cils noirs et les mouvements de ses blanches paupières qui s'abaissent sur ses beaux yeux bruns reparaissent de nouveau, tandis que Margrave regarde son chapeau qu'il balance entre ses mains distraites. Alors, monsieur Margrave, mon cher tuteur, car je veux vous appeler de cet ancien nom que je me souviens avoir prononcé pour la première fois le jour de l'enterrement de mon père bien-aimé. Oh, ajouta-t-elle avec passion, comme je me le rappelle bien, ce triste, ce malheureux, ce terrible jour. Je puis vous voir maintenant, comme je vous vis alors, debout, dans la profonde embrasure de la fenêtre, dans la petite bibliothèque, dans cette chère vieille maison d'Écosse, me regardant avec tant de compassion, les yeux pleins de tristesse. J'étais si enfant alors. J'entends encore votre voix grave et lente, comme je l'entendis alors, me disant « Elinor, votre père en mourant, m'a chargé d'une tâche sacrée. » Je suis jeune, je puis ne pas paraître un homme aussi bon et aussi bien placé qu'il le pensait. Il peut y avoir en moi quelque chose de faible et d'irrésolu, qui ne me rend peut-être pas aussi apte qu'un autre à être votre tuteur, mais je suis si profondément touché de la confiance qu'il m'a accordée en mourant, que je jure, sur mon espérance dans le ciel, sur la mémoire du mort, sur mon honneur d'homme et de gentleman, de m'acquitter des devoirs qui me sont imposés. « Elinor, Elinor, par pitié » s'écria-t-il d'une voix brisée, couvrant son visage convulsivement agité à l'aide d'une de ses mains blanches. « J'ai tort, dit-elle, de rappeler cette triste journée. Vous l'avez fait, vous avez rempli votre devoir, noblement, honnêtement, honorablement. Mais à présent, vous m'abandonnez entièrement au mari, non de mon choix, mais au mari qui me fut imposé par une lourde et cruelle nécessité, et vous faites tout ce que vous pouvez pour que nous devenions étrangers l'un à l'autre. Malgré tout, mon tuteur, Horace, vous n'êtes point heureux. »
Point heureux ? Il relève la tête et rit avec amertume.
« Ma chère madame Dalton, c'est une conversation d'enfant sur le bonheur et le malheur. Deux mots qui ne sont employés que dans un roman de femme où l'héroïne est malheureuse pendant deux volumes trois quarts et immanquablement bénie dans le dernier chapitre. Dans le monde pratique, nous ne parlons pas de bonheur et de malheur. Nous ne connaissons que les deux mots, succès et insuccès. » Un homme arrive à être lord chancelier du royaume, il a réussi, ou bien il essaie d'y arriver, durant tout le cours de son existence, sans y parvenir. Nous haussons les épaules et nous disons qu'il est malheureux. Mais un homme heureux, ma chère Elinor, en avez-vous jamais rencontré un seul ?
Vous vous moquez de moi, monsieur Margrave, mais vous ne me répondez point.
Parce que, pour vous répondre, madame Dalton, il faut que je m'interroge moi-même. Et, croyez-moi, il faut un bien grand courage à un homme pour se demander si, dans ce pénible voyage de la vie, il a pris le bon ou le mauvais chemin. J'avoue être un poltron, et, je vous prie, ne me forcez point à être brave. » Il se leva en finissant de parler, et, regardant son costume, il continua. Le premier coup de cloche du dîner est sonné depuis un quart d'heure, et vous me voyez encore en toilette de voyage. « La faute en est à vous, madame Dalton. Jusqu'à l'heure du dîner, adieu. » Elinor, restée seule, tomba dans une triste rêverie. « Quel peut être le mystère de la vie de cet homme ? » se dit-elle tout bas. « Si José ? Mais non, non, je n'ose pas répondre à cette question. » Il était difficile de reconnaître le triste et sombre Margrave d'il y a une demi-heure, dans le brillant convive assis à la droite de Sir Lionel, dont les flots incessants de spirituel persiflage faisaient éclater la nombreuse assemblée assise à table en rire bruyant. Elinor, charmée malgré elle, entraînée par l'animation de cette conversation, s'étonnait de la puissance extraordinaire que possédait cet homme. « Si brillant, si accompli, pensait-elle en elle-même, si admiré, avec de si belles qualités et cependant si malheureux. » Ce soir-là, Elinor reçut une lettre qui lui avait été adressée à sa maison de ville et qui, de là, lui avait été renvoyée chez Sir Lionel. Elle tressaillit en voyant la suscription et, prenant cette lettre, elle l'emporta dans le petit boudoir qui n'était encore occupé par personne et la lut à la clarté des bougies qui étaient sur la cheminée. Après avoir replié sa lettre, elle rentra dans le grand salon. En le traversant, elle s'approcha d'une petite table près de laquelle Margrave était assis, occupé à feuilleter un album. Elle se plaça près de lui en disant « Monsieur Margrave, je viens à l'instant de recevoir une lettre venant d'Écosse. »
« D'Écosse ? »
« Oui, du bon et cher vieux ministre James Stewart. Vous vous souvenez de lui ?»«
Oui, un vieillard ayant des cheveux blancs et toute une famille de filles dont la plus petite était plus grande que moi. Êtes-vous en correspondance avec lui ?»«
Oh non, il y a si longtemps que j'ai quitté l'Écosse que mes chers vieux amis ont disparu un à un. Leur faire bâtir une nouvelle église à Arkindor. » Mais M. Dalton, comme de raison, a objecté l'inutile dépense et sur ce point, je ne me querelle jamais avec lui. J'ai donc abandonné cette idée. Mais cette fois, M. Stewart m'a écrit pour un motif particulier.
Et ce motif ?
Pour m'annoncer que ma vieille nourrice, Margaret, est devenue aveugle et infirme et a été obligée de quitter sa place. Pauvre chère vieille créature, elle était entrée en service à Édimbourg après la mort de mon pauvre père et je l'ai entièrement perdue de vue. J'aurais pourvu à ses besoins il y a longtemps si j'avais su où la trouver, mais à présent cette question est résolue et je vais immédiatement placer 100 livres sterling de rente sur sa tête malgré l'économie rigide et louable de M. Dalton. »
Je crois que Dalton trouvera que 100 livres de rente est une somme trop considérable. 50 livres par an, pour une vieille femme qui habite le nord du comté d'Aberdeen, serait déjà une fortune fabuleuse. mais vous êtes si généreuse, ma chère Elinor, que des hommes rompus aux affaires, tels que Dalton et moi, peuvent à peine lutter contre vous. »
« Ne vous comparez point à M. Dalton, » dit Elinor d'un air tranquille.
« J'ai peur, en vérité, de ne pouvoir le faire, » répondit-il gravement. « Mais nous disions,
qu'à ce sujet, je ne supporterai point de refus, aucune excuse de n'importe quelle espèce. Je lui écrirai par le courrier de demain. Je ne puis avoir de réponse que le jour suivant. Si cette réponse est un refus ou une excuse, je sais quel parti prendre. »
Et ce parti ?
Je vous le dirai lorsque j'aurai reçu la réponse de Henri. Mais je suis injuste envers lui, dit-elle. Il ne peut refuser d'accéder à cette demande.
Trois jours après cette conversation, juste à l'instant où, une demi-heure avant le dîner, la cloche avait sonné et que les invités de Sir Lionel se hâtaient d'aller changer de toilette, Elinor posa doucement sa main sur le bras de Margrave comme il sortait du grand salon et lui dit
« De grâce, il faut que je vous parle pendant quelques minutes. J'ai reçu la réponse de M. Dalton à ma lettre. »
Et cette réponse ? Demanda-t-il en la suivant dans le petit boudoir communiquant à la serre.
Et, comme vous l'aviez prévu, un refus.
Un refus ? Il fronce légèrement ses noirs sourcils, mais paraît très peu surpris de la nouvelle.
Oui, un refus. Il ne cherche même point une excuse, il n'invente pas même une raison pour sa conduite. 40 livres, dit-il, seront parfaitement convenables pour une vieille femme du nord de l'Écosse, où très peu de ministres de l'Église presbytérienne ont plus de cette somme pour tout revenu. Il lui assurera ce chiffre immédiatement, et il m'envoie un bon pour les 6 premiers mois. Mais il ne veut pas faire plus et n'essaiera point d'expliquer les motifs de sa résolution, qui sont toujours mal reçus. Que pensez-vous de sa conduite ?
Pendant qu'elle parlait, la porte vitrée qui séparait le petit boudoir de la serre se mit à battre, poussée par le vent d'automne qui soufflait par la porte extérieure, car la journée ayant été d'une chaleur exceptionnelle, cette porte avait été laissée ouverte.
« Ma chère Elinor, dit Margrave, si quelqu'un entrait dans la pièce à côté, on pourrait nous entendre parler de votre époux. »«
Tout le monde s'habille, répondit-elle étourdiment. Et puis, si quelqu'un était là, personne ne serait surpris de m'entendre déclarer mon mépris pour Henri. Le monde ne nous regarde point, j'espère, comme un couple bien heureux. »
Comme vous voudrez, mais je suis sûre d'avoir entendu quelqu'un remuer dans cette serre. Mais cela ne fait rien. Vous me demandez ce que je pense de la conduite de votre mari, qui refuse d'accorder plus de 40 livres de rente à votre nourrice. Ne me regardez point comme un misérable sans cœur si je vous dis que je crois qu'il a parfaitement raison.
Mais retenir mon propre argent, empêcher que je fasse mes aumônes, contrôler mes actes de charité, je pourrais lui pardonner s'il me refusait un collier de diamants ou une paire de poneys. Mais dans ce cas où mon cœur est en jeu, que son économie vienne contrecarrer mes vœux les plus chers, cela est trop cruel.
Ma chère Madame Dalton, comme toutes les personnes au cœur impétueux et chaud, vous êtes portée à arriver tout de suite aux conclusions. Vous dites que M. Dalton vous retient votre argent, à l'exception de la propriété d'Ardenne qu'il a vendue lors de votre mariage, votre argent, dis-je, s'est trouvé engagé dans le 3%. Maintenant, supposons, faites bien attention que je n'ai pas le moindre motif de penser qu'une pareille chose soit arrivée, mais c'est uniquement pour poser un point de départ. Supposons que Henri, en homme très habile en affaires et très entreprenant, ait eu l'envie de spéculer avec votre argent.
Sans me consulter ?
Sans vous consulter. Décidément, les femmes s'y connaissent peu en spéculation.
Monsieur Margrave, si Henri a agi ainsi, il n'est plus un avare, mais un escroc. L'argent que m'a laissé mon oncle était bien à moi. Je devais le partager avec lui, il est vrai, mais il m'appartenait néanmoins. Aucune supercherie, aucune chicane d'avoué ne pouvait faire qu'il ne fût pas à moi. Si donc, sans mon consentement, sans m'en avoir donné connaissance, il a spéculé avec cet argent,
Je ne le méprise plus comme un avare, mais je le déteste comme un malhonnête homme. Ah, monsieur Margrave, vous qui avez du sang noble dans les veines, vous, un gentleman, un homme honorable, que penseriez-vous de Henri si cela était possible ?
Elinor, avez-vous une idée de la folie que les hommes ont appelée le jeu ? Savez-vous ce que c'est qu'un joueur ? Savez-vous ce que ressent cet homme qui hasarde la fortune de sa femme, les faibles ressources de sa mère veuve, l'héritage de ses jeunes enfants, l'argent qui suffirait à l'éducation de son fils aîné, la dot de sa fille, les sommes dues à ses créanciers trop confiants ou l'or que lui a confié un commis fidèle sur le tapis vert d'une table de jeu du West End ? Croyez-vous que, dans ce moment de folie, lorsque les lampes à gaz éblouissent les yeux, que des monceaux d'or s'amassent et disparaissent sur le tapis vert, et que la voix du croupier qui crie « Faites votre jeu !» est multipliée par 1 000 000 et assourdit ses oreilles égarées comme la clameur des démons, pensez-vous que, dans ce moment, il suppose qu'il va perdre l'argent qui n'est pas à lui honnêtement ? Non, il va le doubler, tripler ou quadrupler cet argent, multiplier par 100 chaque reluisante pièce d'or et la porter ensuite à sa femme qui meurt de faim, à ses enfants inquiets, et leur crier « Étais-je tant à blâmer ?» Vous êtes-vous jamais trouvé aux courses d'Epsom et avez-vous examiné les figures blêmes des parieurs, entendu le bruit de leurs voix aigres au moment du dernier élan vers le poteau gagnant ? Chaque homme sur cette estrade pleine de foule, chaque créature sur ce champ encombré, depuis le gros bonnet qui est là pour gagner 250 000 jusqu'au misérable apprenti qui a volé une demi-couronne dans le comptoir pour placer cet argent sur le cheval favori, chacun croit qu'il a parié pour le cheval vainqueur. Voilà la grande folie du jeu, voilà la terrible magie de la maison du jeu et du champ de course. Et c'est aussi là la misérable hallucination de l'homme qui spécule avec la fortune d'un autre. Plaignez-le, Elinor. Si l'homme indélicat mérite la pitié des honnêtes gens, cet homme mérite la vôtre. » Il avait parlé avec une énergie qui ne lui était point habituelle et il se laissa tomber sur une chaise, à moitié épuisé par cette véhémence inaccoutumée. « Je croirais plutôt que l'homme que je suis obligé d'appeler mon mari est un avare qu'un fripon, monsieur Margrave, » dit Elinor avec calme. Et je suis fâché d'apprendre que si, en effet, il était capable d'un tel déshonneur, son crime trouverait en vous un avocat.
« Vous êtes sans pitié, madame Dalton, » dit Margrave après une pause. « Que le ciel soit en aide à l'homme qui ose vous nuire. »
« Ne parlons pas davantage de Henri, monsieur Margrave. Je vous ai dit que s'il me refusait cette faveur, qui est un droit, j'étais décidé à prendre un parti. »
« Vous l'avez dit, et maintenant, puis-je vous demander quel est ce parti ?»«
C'est de le quitter. »«
Le quitter ? » s'écria-t-il avec inquiétude.
« Oui, de le laisser en possession de cette fortune qu'il garde si soigneusement, ou bien qu'il a perdue, en le supposant le misérable être que vous pensez, s'il a spéculé avec elle. Le quitter ! Il n'a jamais fait grand cas de moi. Il a refusé toutes mes demandes, m'a frustré dans chacun de mes désirs, a consacré toutes les heures de son existence, non à moi, mais à sa profession qu'il chérit tant. Ma tante me recevra. Je quitterai cet endroit cette nuit et Londres pour Paris demain matin. »
Mais, Elinor, le monde.
Que le monde nous juge. Que peut dire le monde sur mon compte ? Je vivrai avec ma tante comme je faisais avant que cette fortune cruelle me soit tombée entre les mains. Monsieur Margrave, mon tuteur, vous m'accompagnerez à Paris, n'est-ce pas ? J'ai si peu d'expérience en ces sortes de choses, je suis tellement peu habitué à me conduire moi-même que je n'ose entreprendre ce voyage seul. Vous m'accompagnerez ?
Moi, Elinor ?
Le tremblement des paupières qui cachaient ses yeux noirs et tristes reparut de nouveau.
Oui, qui mieux que vous peut me protéger, vous auquel les lèvres mourantes de mon père confièrent ma tutelle ? En son nom, vous me rendrez ce service, n'est-ce pas ?
Un service, Elinor ? Puis-je vous rendre un service en vous séparant de votre mari ?
N'en parlons plus, alors, dit-elle avec chagrin.
Vous refusez de me venir en aide, je partirai seule.
Seule ? Oui, seul. Je pars ce soir et seul. »
Un éclair brillant illumina le pâle visage de Margrève et une éclatante lumière éclaira ses beaux yeux.
« Seule, Elinor ? Non, non, dit-il, ma pauvre enfant, ma pupille, mon orpheline abandonnée, ma charmante petite écossaise des temps passés, je vous protégerai pendant ce voyage, je vous remettrai saine et sauve entre les bras de votre tante et serai responsable de ma conduite vis-à-vis de Henri. Pour ceci, au moins, Elinor, je serai digne de la confiance de votre père. Prenez vos arrangements pour le voyage. Vous avez votre femme de chambre auprès de vous ?
Oui, Élise est une excellente créature. Alors, à ce soir, mon tuteur, par le train de la malle.
Je serai prêt. Il faut que vous présentiez vos excuses à Sir Lionel et que vous partiez avec le moins d'explications possible. Au revoir.
Au moment où Elinor et Margrève quittaient le petit boudoir, un homme en gros paletot, avec un plaid sur les épaules, sortit sur la terrasse par la porte de la serre et, allumant un cigare, il se promena de long en large pendant environ une demi-heure en réfléchissant profondément.